Le droit et nous, dans la grande matinale avec Alutal sur Africa numéro 1.
Bonjour Alutal.
Bonjour Phil.
Je rappelle que vous êtes juriste spécialiste du droit des étrangers en France. Demande d'asile, procédure Dublin, quels sont vos droits? Comme nous l'avons abordé dans le droit et nous, toute personne dont la sécurité est menacée dans son pays d'origine peut solliciter une protection internationale et obtenir le statut de réfugié ou d'apatride. Mais le droit a été parfois détourné pour des fins migratoires. Face aux vagues de plus importantes de demandeurs d'asile, l'Europe a pris des mesures pour lutter contre ces pratiques avec les récentes actions de sauvetage du bateau l'Aquarius affrété depuis 2016 par l'association SOS Méditerranée pour sauver les migrants et les polémiques suscitées. Les demandeurs d'asile auront de plus en plus de difficultés à obtenir le statut de réfugié en Europe. L'un des obstacles auxquels ils sont confrontés est la procédure Dublin que nous traitons aujourd'hui à Lutal.
Oui, effectivement.
Alors, pour commencer, que signifie le terme « dubliné » qu'on utilise de plus en plus pour les demandeurs d'asile?
Oui, je pense que cette problématique est d'actualité et d'acuité. On a entendu le président français en parler, c'est une problématique européenne. Il y a une forte pression des partis politiques de droite et d'extrême droite et qui parfois déteint sur les partis même de gauche et les régimes qui sont en place. On a entendu ce que le président a dit hier, que la France, quelque part, ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ça a été dit auparavant. Mais ça va devenir de plus en plus une réalité. Il faut aussi avouer que de l'autre côté, il y a quand même de plus en plus des flux migratoires. Et ces flux sont massifs. Qui a raison, qui a tort, en tout cas, les flux sont là. L'Europe doit les gérer. Mais ce que les politiciens disent aujourd'hui, ce que les politiques font comme mesure, ce qu'ils essaient de prendre aussi comme nouvelle mesure pour plaire à l'électorat, ce n'est pas nouveau. Ça remonte à plusieurs années avant. Ce qu'on appelle la convention de Dublin. Depuis 1990, il y avait une première convention qui avait pour objectif, dans le sens de créer une unité européenne et de créer un territoire commun, d'avoir un système de gestion mutualisé des flux migratoires et surtout des demandeurs d'asile. Cette convention a eu des failles. C'était pour déterminer quel est l'État qui est compétent quand un demandeur d'asile est sur le territoire européen. Ça a été révisité en 2003. Toujours encore des failles et ça a été encore révisité en dernier lieu au mois de juin 2013, ce qu'on appelle la convention Dublin 3. Et quand quelqu'un vient demander l'asile, normalement c'est l'État où on est qui doit prendre la demande de la personne. En l'occurrence, si on est en France, c'est l'OFRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Mais il s'avère qu'avec cette convention, il y a des règles de distribution de la compétence. L'État qui est responsable de la demande d'asile n'est pas forcément l'État où on est. À partir du moment où il y a un système de transfert de ces demandeurs d'asile qui ne sont pas sous la compétence de l'État où ils se trouvent physiquement, on dit que la personne est dublinée. Maintenant, de plus en plus, quand on voit devant les associations qui donnent les rendez-vous pour la préfecture pour demander l'asile, tout le monde parle de dubliné, dubliné. J'ai été dubliné. Il y en a même qui dit j'ai été doublé. J'ai entendu qui me dit, monsieur, tellement j'ai été doublé. Qu'est-ce que je vais faire?
Dubliné.
Je dis, monsieur, c'est dubliné. Vous n'êtes pas doublé. Mais quelque part, il est doublé parce qu'il était à cheval entre deux États qui se chamaillaient sur leurs compétences. La France qui réfutait sa compétence qu'il voulait envoyer à l'Allemagne. L'Allemagne qui avait dit que non, nous, d'après les critères de la Convention de Dublin, c'est vous qui êtes compétent, c'est vous qui avez la compétence. L'intérêt, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de faire de sorte qu'il y ait un seul État membre qui soit compétent pour traiter de cette demande d'asile. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a ce qu'on appelait le forum shopping ou le asylum shopping. Ça veut dire que les gens allaient dans des pays où la législation était beaucoup plus avenante. Le traitement des demandeurs d'asile était beaucoup plus agréable. Comparer la France à la Grèce, tout demandeur d'asile va préférer la France parce que le traitement qu'on a en France, quand même, on a un peu d'argent qu'on nous donne, on a une sécurité sociale et puis il y a des cadres, des centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile et des centres d'hébergement d'urgence qu'on n'a pas en Grèce, d'autant plus que là-bas aussi, il y avait aussi une certaine méfiance de la population locale qui fait qu'en général, les gens ne veulent pas aller là-bas. Donc l'objectif, c'est d'éviter que les gens aillent faire des demandes un peu partout ou que des gens choisissent là où ça leur plaît. Ce n'est pas aux demandeurs d'asile de choisir le lieu où sa demande va être traitée. C'est plutôt au système européen de déterminer cela. Donc finalement, quels sont les moyens pour essayer de renforcer cette politique migratoire à travers ce qu'on appelle le Dublin 3? Il y a deux systèmes. C'est le système d'information sur les visas qu'on connaît. À partir du moment où on demande un visa, il y a un système européen. On sait que M. X a demandé un visa, il l'a eu ou bien ce visa a été refusé. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ORDAC. C'est un système d'enregistrement des empreintes digitales. À la fois pour les demandeurs d'asile. Si vous demandez l'asile maintenant en Italie, vous allez en Irlande ou en France, on saura carrément que vous l'avez fait. et automatiquement, donc, il y a le système Dublin qui va jouer. Et aussi, si vous êtes contrôlé en traversant les frontières, vous quittez Lampedusa ou bien vous quittez Ventimiglia pour à pied en traversant les Alpes-Maritimes qu'on a vu l'été dernier pour venir en France et que vous êtes contrôlé, vous serez enregistré dans ce fichier Eurodac. Et l'État qui va traiter votre demande saura que vous êtes sous la procédure particulière de Dublin. Vous êtes dubliné.
Voilà, à l'UTAL, nous allons inviter les auditeurs qui ont des questions à poser sur le sujet du jour, demande d'asile, procédure Dublin, quels sont vos droits? Vous pouvez composer en direct 01 55 07 58 00. Deuxième question, pouvez-vous expliquer aux auditeurs à l'UTAL les critères les plus importants pour déterminer l'État responsable d'une demande d'asile en Europe?
Il faut dire que la première chose, généralement, on considère que l'État par lequel l'étranger a posé le pied la première fois sur le territoire européen, c'est cet État-là qui est compétent. Ça, c'est un principe qui souffre beaucoup d'exceptions, beaucoup d'autres critères secondaires qui vont permettre à l'État d'apprécier si sa compétence est là ou bien si l'État est responsable ou bien si c'est un autre État qui est responsable, si l'étranger doit être transféré. Avant, on parlait de refoulé. Avec Dublin 1, on parlait de refoulé, mais le terme le refoulé, ça renvoie à expulsion. C'était un peu crade, c'était pas du tout diplomatiquement correct, ni socialement correct, ni politiquement correct. Ils ont préféré utiliser le terme transféré, sachant que le résultat est le même. On vous expulse. Et maintenant, on va tenir compte de certains critères. Il y a un critère fondamental, c'est l'union et l'unité de la famille. Oui. Dans tous les cas, on ne doit pas dissocier une famille. Si quelqu'un vient ici, par exemple un mineur isolé et que le mineur a des proches, même si le mineur est passé par l'Allemagne, ensuite l'Italie et que normalement la France n'est pas compétente pour traiter sa demande d'asile, à partir du moment où il est mineur et qu'il y a des membres de sa famille qui pourraient le prendre en charge au niveau social, la France est obligatoirement compétente pour traiter sa demande. Aussi, ça peut être un conjoint, ça peut être un père, ça peut être une mère. À partir du moment où on a des attaches sur place, il faut utiliser ça pour éviter d'être dubliné. Il faut dire que j'ai des attaches ici en France. Le principe fondamental, c'est de garder l'unité de la famille. Cela ressort à la fois de cette convention donc de Dublin et cela ressort d'une autre convention européenne qu'on a traitée, la convention sur les droits de l'homme, en son article 8, qui pose le principe du droit à une vie privée familiale normale. Aussi, il y a d'autres critères. On peut considérer que, et on considère, que l'État qui vous a donné les visas, je donne un exemple, quelqu'un qui est venu, Mamadou qui est venu, qui a eu un visa, oui. Son visa est toujours en cours. C'est la France qui est compétente. Si c'est un visa italien, c'est l'Italie qui est compétente. On ne peut pas dire que l'Italie ne peut pas dire que la France ne peut pas dire que non, je ne suis pas compétent parce que voilà, vous avez des attaches ailleurs. À partir du moment où le visa est en cours, c'est le pays de résidence.
Mais si c'est un visa Schengen?
Si c'est un visa Schengen, parce que le visa Schengen, c'est un pays qui leur a donné obligatoirement. Il y a un pays qui aura donné le visa Schengen. Schengen, c'est une liberté de circulation. Donc, à la fois pour les Européens que pour les ressortissants des pays tiers qui ont toujours un visa en cours de validité. Donc, dans ce cas de figure, c'est l'État qui a délivré, les autorités consulaires de l'État qui a délivré ces visas qui sont compétentes pour traiter donc de ce dossier. Mieux encore, que ce soit aussi un titre de séjour. On peut être ici avec un titre de séjour étudiant, qu'on se rend compte qu'on ne peut plus y retourner dans son pays d'origine pour des raisons politiques. On se dit que dans mon pays, il y a beaucoup de tensions politiques, je fais de la politique via les réseaux sociaux et je suis menacé, je ne peux plus retourner.
Si on est activiste dans les réseaux sociaux.
Voilà, effectivement, dans ce cas de figure, on peut demander l'asile, on peut changer de statut de vie privée familiale d'étudiant à protégé.
Là, on d'ailleurs peut le faire, ça veut dire. Le cas d'une jeune activiste gabonaise qui devait être refoulée et finalement qui a été relâchée par les autorités françaises.
Effectivement, sur ce principe-là, on est obligé de lui donner la protection au titre de l'asile. Et donc, l'État où cette fille se trouvait en situation régulière est l'État compétent pour traiter de sa demande d'asile. Il peut arriver aussi qu'on ait eu un titre de séjour expiré ou bien qu'on ait eu un visa expiré. Là, c'est très important de le dire aux auditeurs. Si ça vous arrive, dans certaines préfectures, on peut se presser à vous transférer, ça veut dire à vous refouler. Si votre titre de séjour est expiré il y a moins de 2 ans, c'est toujours le pays où vous vous trouvez qui est compétent. Si c'est la France, c'est la France qui est compétente. Si c'est l'Italie, ainsi de suite. Même procédé pour le visa. Si le visa est expiré il y a moins de 6 mois, on ne peut pas vous éloigner. Malheureusement, il y a des cas de figure où on essaie d'éloigner. Il y a un cas d'une personne qui est en ce moment à Marseille, qu'on a mis sur la procédure Dublin alors que son visa est expiré il y a moins de 3 mois, c'est une irrégularité que je vais essayer de réparer avec cette fille et obligatoirement elle aura gain de cause. Sinon, il y aura un recours qu'on va faire devant le tribunal administratif et cette personne aura gain de cause. C'est aussi le cas où on a une entrée illégale. Quand on est entré illégalement, donc là, c'est le pays où on se trouve qui est obligé de traiter votre dossier, sauf si maintenant, au bout de 12 mois, là, vous pouvez être reçu par un autre pays. Et en dernier lieu, il peut s'agir d'un transit, quelqu'un qui fait un transit au niveau d'une zone aéroportuaire. partir de ce moment, vous pouvez demander l'asile. Je quitte ici pour aller en Angleterre et je passe quelque part. Je peux demander l'asile au niveau de l'aéroport où je me trouve. C'est le pays qui est responsable, par exemple, de l'aéroport, Roissy ou Charles de Gaulle, qui sera compétent pour connaître de ma demande.
Aliutal, en deux minutes, dernière question. Que risque-t-on quand on est dubliné qu'on refuse d'être transféré vers un autre État européen?
D'ailleurs, je pense qu'en deux minutes, il faut préciser que quand on est dubliné, on ne peut pas avoir la procédure de demande classique de visa. Mmh. On a une procédure spéciale. On nous donne une attestation dans laquelle c'est marqué procédure Dublin. Ça veut dire que vous êtes en situation transitoire, en attendant de savoir si l'autre État accepte de vous recevoir ou pas. Si l'État ne vous accepte pas, votre compétence, la compétence du pays où vous vous trouvez, elle est acquise. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir les mêmes droits. Au niveau, par exemple, de tout ce qui est hébergement, vous n'avez pas droit d'accès au CADA, ce qu'on appelle au centre d'hébergement. Vous pouvez avoir les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Maintenant aussi, vous risquez d'être assigné à résidence. Ça, c'est très important. Là, ou bien placé en rétention. Vous avez moins de droits et vous devez pointer régulièrement et votre éloignement sera plus facilité. Tout ce que je conseille en définitive, c'est que quand ça vous arrive, prenez contact avec une association ou un avocat ou un juriste compétent pour vous aider à faire des recours. Parce que vous avez 7 jours dans ce cas de figure pour faire les recours si vous n'êtes pas placé en centre de rétention. Sinon, vous avez 48 heures si vous êtes en centre de rétention ou en assignation de résidence.
Merci à Lutal.
Merci Phil.
C'était Le Droit et Nous dans la grande matinale avec Aliutal sur Africa numéro 1.